Bienvenue dans la troisième saison de Altitude, le podcast des facultés de l'Université catholique de Lille qui s'intéresse au parcours des anciens étudiants. Je m'appelle Ismaël Otmani, étudiant en Master 2 de journalisme à la Faculté de Lettres et Sciences Humaines. Et aujourd'hui, j'échange avec moi-même, et oui, je me retrouve en face de Ismaël Otmani. Son parcours commence en 2018 lorsqu'il rejoint la licence MCC des Facultés de Lettres et Sciences Humaines des Universités Catholiques de Lille. Ensuite, c'est un Master Journalisme. Et puis en 2022, il se voit offrir l'opportunité de présenter Altitude. Eh bien, cet épisode bonus de Altitude est l'occasion d'en parler.
Par le début des choses. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, quel est ton parcours, etc.
Alors je m'appelle Ismaël Otmani, j'ai 23 ans, j'oublie très souvent mon âge quand je suis en train de réfléchir à la date. Je suis né au Maroc, donc je suis marocain. Je suis en France maintenant depuis 5 ans, donc la date à laquelle j'ai rejoint la licence à la faculté de l'Université catholique de Lille. Et sinon, j'ai grandi dans plusieurs pays, j'ai fait Berlin, j'ai fait le Portugal, je suis né au Portugal, mais je suis marocain parce qu'on m'a jamais donné la nationalité portugaise, donc je suis marocain de cœur.
Tu en parlais, maintenant ça fait donc 5 ans que tu es ici, donc tu finis ton master 5 ans à l'Université catholique de Lille. Alors au final, comment t'en es arrivé à faire ce choix? Pourquoi une licence? Pourquoi un master? Comment t'es arrivé à l'Université catholique de Lille?
Alors oui, l'histoire pour le coup est très simple, hein. Donc j'ai fait un bac STMG. J'arrivais à la fin de mon bac STMG, je savais que j'aimais bien l'univers de la radio, j'ai toujours fait des petites vidéos quand j'étais petit, etc. En tout cas, bref, j'aimais créer du contenu. Donc je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve quelque chose où je puisse créer du contenu. Et puis il y avait Parcoursup à l'époque, j'avais renseigné art et métier du spectacle et du cirque, ce qui n'avait pas du tout plu à mes parents. Et j'avais aussi demandé la FLSH à l'époque, parce que quand j'étais parti sur le site, j'avais vu toute l'infrastructure Media Lab, j'avais vu les micros, j'avais vu les caméras, etc. Je me suis dit, ah, bon, bah, eux, ils créent des choses, donc si je vais là-bas, il y a des chances que je puisse créer des choses. Donc voilà, je me suis inscrit à la FLSH, j'ai eu toutes mes réponses le jour de Parcoursup et c'est la FLSH qui était tombée. J'avais fait déjà un mois ou deux, ou en tout cas j'étais venu en vacances avec ma mère à Lille avant, donc je connaissais la ville. Il y avait des micros, il y avait des caméras, j'aimais bien la faculté, les gens avaient l'air contents d'être là-bas, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter l'aventure. Et puis voilà, ça dure maintenant depuis 5 ans.
Et tu en parlais d'un point de vue technique, et au final pourquoi le choix de ce master en journalisme, mention histoire? Est-ce que tu as eu des doutes? Pourquoi tu t'es porté finalement après licence sur un master comme celui-ci?
Ouais, effectivement, j'ai beaucoup hésité. Alors moi, je m'étais posé la question après la licence, comme je me le dis, comme tu me le dis et comme je me le dis, je me suis posé la question sur est-ce que ça serait plus intelligent de faire une école de radio, ou en tout cas quelque chose de plus spécialisé vraiment dans le domaine que je veux faire, ou peut-être de me lancer en indépendant, etc. Donc, c'était une longue réflexion. Et puis, la réalité, c'est qu'il y avait une volonté, qu'il y avait de me dire, bon, ça serait bien d'avoir un diplôme en plus, ça serait bien d'avoir un bac plus 5, parce que ça me paraissait bien d'avoir un bac plus 5. Mais je voulais quand même que si je le fasse, je sois au moins certain que ça précise ce que je veuille faire. Et du coup, j'avais discuté en amont avec plein de personnes ici, etc., qui m'avaient dit que pour le coup, c'était un master où j'allais pouvoir me professionnaliser, que j'allais faire beaucoup moins de matières très théoriques et que je pourrais créer du contenu, que je pourrais faire des reportages, m'entraîner encore plus au niveau de la radio, etc. Donc je me suis dit, voilà, c'est une bonne idée, je vais tenter le master. Et voilà, après de longs mois de réflexion et un entretien avec monsieur Loïc Laroche, qui est mon directeur de master, je me suis dit bon allez, on va tenter le master de journalisme, en sachant que ça serait pas pertinemment ce que je ferais de ma vie, en tout cas pas le métier de journaliste, mais en me disant au moins ça me permettra de continuer à faire de la création de contenu et à faire de la production audiovisuelle en ayant un peu de légitimité de journaliste au moins, et en tout cas en le faisant un peu plus professionnellement, quoi.
Et donc aujourd'hui tu arrives au terme de ces deux années de master, alors maintenant quel est ton projet professionnel?
J'ai mis du temps à me projeter professionnellement. Alors aujourd'hui, je sais que ce qui m'anime vraiment, c'est la création de contenu, et aussi l'indépendance. C'est les deux choses qui m'animent pour le coup et que j'ai envie de faire. Moi j'ai créé une chaîne YouTube il y a maintenant 3 ans. Donc maintenant ça fait 5 ans, c'est juste que j'avais pris une pause pendant 2 ans, sur laquelle maintenant je me focus vraiment, qui est la base de mon projet professionnel, qui est un peu en gros ce que j'essayais de créer en termes d'image de marque pour après me vendre auprès de radio, d'organismes, de médias, etc. En tout cas, que ça leur paraisse intéressant de m'intégrer moi. Et au fil du temps, ce que je me dis, c'est juste j'ai envie d'avoir des journées différentes où chaque jour, je crée un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo, où j'écris des scripts, où je parle à des gens, ou en tout cas, du moins, j'ai envie que ma vie professionnelle dépende de ma créativité. Voilà, en gros, c'est vraiment ça mon projet, quoi.
Et on va revenir sur un autre aspect hein, de cette année pour toi qui a été très nouveau. Donc tu es désormais l'animateur du podcast Altitude, donc, qui est présenté par les facultés de l'Université catholique de Lille, 3e saison, donc tu es le 3e animateur. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que Altitude et comment ça se passe?
Alors oui, donc Altitude, c'est la 3e saison hein, d'un podcast qui a été créé par les facultés de l'Université catholique de Lille.
Alors le format du podcast évolue un petit peu au fur et à mesure des saisons, mais l'idée initiale reste la même, et puis c'est celle qu'on a faite cette année, donc qui est un étudiant animateur, donc cette saison c'est moi, qui va interviewer donc un alumni, un ancien étudiant qui aujourd'hui est alumni, et on va parler ensemble de son parcours, des années qu'il a traversées entre le moment où il a été diplômé jusqu'au moment de notre rencontre, donc que ce soit son parcours professionnel ou ses aspirations, etc.
Les autres années étaient plus axées sur vraiment des profils atypiques, mais cette année on s'est un peu plus recentré juste sur l'idée de savoir en quoi un master spécifique peut donner comme résultat. Donc on a eu une personne qui est capable une entrepreneuse qui a créé sa propre clairière, qui a tout un projet indépendant, comme on a pu rencontrer quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'hôtellerie, donc ça peut être de l'écologie. Là très récemment j'ai eu quelqu'un qui est en freelance, qui est professeur de droit et qui travaille en communication. Après voilà, c'est vraiment un peu de comprendre, même pour ces futurs étudiants qui veulent intégrer les masters de l'Université catholique de Lille, de se dire ok, bon bah si je fais ce master là, cette personne là qui est en train de parler a fait le même master que moi, bah il lui arrivait quoi? Bah il aura la réponse quand il écoutera Altitude.
Et justement, parlons-en de Altitude. Quand la proposition t'est venue il y a maintenant un an, qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager avec le projet Altitude? Est-ce que t'aimais bien le format interview?
Alors moi je me suis engagé dans cette voie parce que je savais, je me parlais et je te parlais tout à l'heure de cette envie d'indépendance et en tout cas de développer des choses. Une des choses que j'ai toujours voulu développer, un des trucs qui m'a toujours les plus intéressé, c'est ce contact humain. Je trouve que ça soit le format du podcast ou de l'interview vidéo, en tout cas le fait de réussir à raconter l'histoire de quelqu'un en discutant, je trouve que c'est passionnant, que c'est intéressant. Du coup, il y a un an, quand on m'a approché pour me dire voilà, il y a la 3e saison d'Altitude, c'est ce genre de format-là, vous allez échanger sur son parcours, ses envies, ses rêves, ses espoirs, etc. Je me suis dit que c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que j'aimerais moi faire à terme. Donc je me suis dit que ça serait déjà une bonne porte de pouvoir le faire, surtout dans un environnement qui est hyper propice, avec du vrai matériel, etc. Et donc ouais, franchement, l'idée m'a tout de suite rappelé ce que j'aimerais faire moi à terme. Et du coup, le fait de savoir que je pouvais le faire dès ma deuxième année de master, ça m'a direct attiré quoi.
Et justement maintenant ça va faire plusieurs mois que tu présentes Altitude, beaucoup de rencontres, etc. Et au final concrètement, personnellement, qu'est-ce que t'as apporté cette saison d'Altitude?
Déjà une éthique de travail. Alors j'ai tout ce que j'ai fait dans la production audiovisuelle, ça a toujours été en indépendance, donc j'ai jamais eu de retour, de révision, de conseil. Donc c'est la première fois où sur ce que je faisais il y avait un réel retour professionnel. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se dire, des choses qui ne peuvent pas se dire, des manières de formuler les choses, des sujets qui sont plus intéressants, etc. Et c'est aussi ce que je disais par rapport... Alors effectivement, l'indépendance m'attire, mais dans ce projet-là, ce qui m'a attiré aussi, c'est de savoir que quand je propose quelque chose, j'ai un retour plus direct et plus global, et j'ai aussi une satisfaction des personnes qui font confiance et qui me font confiance sur le projet. Donc déjà, ça m'apporte cette éthique de travail-là, ça m'apporte des super rencontres, parce que franchement, depuis septembre, j'ai rencontré des personnes qui étaient hyper intéressantes, et puis c'est souvent des personnes qui sont très motivées, qui le font de bon cœur, qui le font parce qu'ils ont envie de parler, et donc forcément c'est agréable de leur parler, et ouais franchement ça m'a apporté des bons souvenirs, une éthique de travail, et au final je pense que ça m'a sur le long terme, je me rappellerai toujours de ça en me disant que ça a été ce qui a été le plus proche en tout cas pour moi d'être vraiment confronté à la réalité de j'ai une deadline, j'ai un travail sérieux, et puis si je le fais pas, il y a des gens qui comptent sur moi, ou en tout cas qui comptent sur le projet, donc j'ai une responsabilité quoi. Je faisais beaucoup de techniques son, ça veut dire que c'est pas un truc qui m'était étranger pour le coup, mais ça m'a appris déjà toutes les galères qu'il peut y avoir quand on a des invités, parce que parfois ils ont des écouteurs, parfois pas, parfois ils ont un casque, parfois pas, parfois moi tout va bien de mon côté, parfois rien ne va, donc alors quand on peut le faire dans les studios de l'Université catholique de Lille, tout est plus simple parce que le traitement acoustique est super, parce que le studio est super, etc. Donc c'est plus simple, mais du coup ça m'a appris à devoir me en tout cas de de m'adapter au matériel et en tout cas à ce que les gens avaient eux à disposition pour rendre un épisode plus agréable. Là où quand je fais les choses tout seul, forcément, bah, je compte que sur ce que je suis capable de faire. Donc si je suis capable de le faire, c'est bien. Si je suis pas capable de le faire, bah, je le fais pas. Et alors là, il faut s'adapter. Donc parfois, ça donne plus de travail parce qu'il faut réussir à régler des sons, régler des voix, régler des choses. Et puis ça m'a aussi appris que ça m'a aidé parce que moi, j'ai une chaîne YouTube à côté, comme je me disais. Et je fais ce qu'on appelle du cut, c'est-à-dire que je coupe de manière très rapide pour que les mots soient enchaînés le plus rapidement possible et que le rythme soit très 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 rapide. Et du coup, ça m'a dû un peu réapprendre à comment monter un podcast parce que c'est différent, parce qu'on veut garder quand même le fond et la forme du discours de quelqu'un. Donc j'ai dû réapprendre à comment on coupe un épisode, mais en même temps qu'on laisse la personne s'exprimer et puis voilà. Et même d'un point de vue pas juste techniquement technique quoi, plus sur la manière de parler à des personnes, etc. J'ai toujours eu un rythme qui est très rapide, je parle beaucoup, parfois beaucoup trop, et j'ai dû apprendre à écouter. Et sur les un an, je me suis rendu compte que même quand on faisait des projets qui étaient autres que ce que je faisais avec la fac ici, j'ai dû comprendre que pour faire une bonne interview, il faut surtout savoir écouter. Et du coup, ça m'a appris à écouter. Ouais.
Altitude, c'est un programme qui se renouvelle, hein, troisième saison. À chaque fois, on change un petit peu le format. Alors, pour la prochaine saison d'Altitude, pour la prochaine personne qui prendra ta position, quel conseil tu as pour cette future saison d'Altitude ?
Ça serait de bien s'organiser, parce que je ne suis pas la personne qui s'organise le mieux au monde. Ça serait donc vraiment déjà premier conseil de bien organiser son calendrier, de bien exposer le projet à la personne, de pas avoir de honte ou de gêne quand on contacte une personne, parce que au début j'avais cet a priori là, je me disais oula, je lui envoie 3-4 messages, je prends un peu son temps. Il faut partir du principe que quand la personne dit oui, c'est qu'elle a envie de le faire, c'est juste qu'elle a pas toujours des disponibilités pour le faire. Donc déjà c'est sur ce point de vue là d'organisation, juste de comprendre que effectivement quand on veut inviter quelqu'un, c'est un échange, il faut être patient et il faut trouver les bons créneaux de disponibilité. Je lui conseillerais de faire exactement comme moi, parce que je le super bien. Non, je lui conseillerais de vraiment jouer sur sa créativité, de voir ce que le projet lui inspire et de pas hésiter à amener ce qui vraiment l'anime le plus. Moi, ce qui m'a animé cette année, c'était de faire une espèce de petite introduction parce que je trouvais que ça racontait mieux l'histoire. Et je pense qu'il y a tellement de personnes qui ont tellement de créativité, qui auront tellement d'autres idées sur comment raconter l'histoire, et je pense qu'il y a tellement d'histoires à raconter, donc c'est juste ouais, de venir prendre le projet et d'être créatif et d'être inspiré.
Et généralement, pour présenter ce podcast Altitude, tu te retrouves dans un studio bien précis, justement ces infrastructures dont tu parlais. Alors pour les gens qui ne peuvent que t'écouter et pas voir ce studio, est-ce que tu peux un petit peu décrire à quoi ressemble cet environnement propice au travail ?
Alors ça va être tellement compliqué et tellement simple à décrire pour les personnes. Alors imaginez-vous un studio très blanc, très apaisant, très épuré, avec plein de traitements acoustiques autour, plein de mousse acoustique, des beaux micros de radio, comme vous allez les voir sur toutes les radios qui sont connues, du matériel de partout, une belle table blanche en plein milieu. Bref, c'est le genre d'endroit où, et je m'en suis rendu compte que quand les invités viennent ici, leur premier réflexe, c'est de le prendre en photo en me disant oh, c'est super, c'est un studio, c'est la première fois que je vois un vrai studio qui porte vraiment ce que c'est de la radio. Donc ouais, franchement, si je devais le décrire, c'est une espèce de... Alors moi, au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai l'impression d'être dans une espèce de petite capsule de navette spatiale faite pour la radio. Et ouais, c'est ce que les gens doivent imaginer. Moi, je leur dirais d'imaginer du noir et du blanc. Un espèce de d'endroit très apaisant où on est stressé parce qu'on se dit il y a des micros, et puis quand on commence à parler, on a l'impression d'être dans un petit nuage, et puis ensuite on parle et on a juste envie de parler quoi.
Tu l'as dit, t'as eu un parcours qui a fait que t'as fait plusieurs pays, plusieurs destinations, plusieurs endroits. Est-ce que tu penses que le fait un petit peu d'avoir découvert le monde comme ça, ça t'a un petit peu influencé, ou est-ce que ça a pu t'aider dans ton travail à Altitude?
Alors si j'étais joueur de foot, ça aurait été compliqué, j'aurais vraiment galéré à trouver une équipe, mais en tout cas pour l'instant. Alors ça vient de plein de choses, donc l'occupation de mon père, la profession de mon père fait que donc il est conseiller et qu'il a des missions dans différents pays. Et donc au début on l'accompagnait pas parce que lui faisait sa mission donc de son côté. On était plus jeunes, donc je suis né au Portugal parce qu'il était en mission au Portugal. Je suis resté très peu de temps au Portugal. Je ne parle pas portugais, je sais juste dire Feliz Natal parce que c'est écrit quelque part dans mon appartement. Et ensuite, on a déménagé pour la première fois à Berlin. Donc là, c'était le grand saut, hein. Le Maroc-Berlin. On passe des étés à 29 degrés à 31 degrés, aux hivers à moins 25 degrés. Donc c'était violent, mais ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris à parler couramment allemand en 2 mois grâce à Disney Channel, parce que j'ai regardé Anna Montana à l'époque juste en repeat jusqu'à ce que je comprenne l'allemand. Et ensuite, j'étais vraiment devenu un petit allemand. Les gens étaient surpris de savoir que quoi, mais il n'est pas marocain, il est allemand lui. C'est ce genre d'expérience-là, de rencontres en Allemagne qui m'ont appris plein de choses. Ensuite, de Berlin, on a déménagé en France. Donc là, c'était ma première expérience en France avant que je vienne pour mes études. Donc là, c'était à Levallois-Perret, donc à Paris. C'était la première fois que je voyais la Tour Eiffel, la première fois que je voyais les Champs-Élysées. J'étais un peu dans mon film parce que je connaissais très peu l'Allemagne, mais pour le coup, je connaissais beaucoup la France. Parce qu'au Maroc, on grandit dans une culture française, on a tous M6, on a tous TF1, etc. Donc moi, je me rappelle la sortie de l'aéroport. Le premier bâtiment que je vois, c'est le bâtiment TF1. Je me dis, oh, wow, TF1, c'est vraiment ici, ça existe, c'est à Paris. Donc j'étais très, très content. Et voilà, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de faire des rencontres qui ont été hyper intéressantes. Et je pense que le fait d'avoir vu autant de pays et surtout le fait d'avoir dû être un Marocain dans plein de pays différents, ça m'a permis de l'assumer au final et juste de me dire c'est ma personnalité, c'est mon identité, c'est ce que je suis. Et je suis content maintenant de savoir, peu importe l'endroit où je suis, je suis capable de connecter, je suis capable en tout cas d'avoir des interactions intéressantes et des discussions passionnantes, peu importe la nationalité que je rencontre, et ça c'est cool.
Eh bien écoute Ismaël, merci beaucoup pour cette discussion avec moi-même. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette interview aidera Altitude à trouver la prochaine pépite pour la 4e saison d'Altitude. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un épisode un peu plus classique de Altitude.